La confession. Alors, comme dans d'autres cours, je vous l'avais dit, un grand principe de la vie humaine, c'est la réalité de la connaissance du Créateur, de notre être. Une des grandes vérités de la création, de l'existence, de l'être, c'est l'omniscience de Dieu. Et donc, si pour aborder la confession, il faut surtout bien comprendre la foi commune aux tous les hommes, qui est l'existence de Dieu, sa toute-puissance, son omniscience, c'est-à-dire qu'il sait le passé, le présent et le futur. Dans toutes les religions, quasiment, vous avez des divinations, la volonté de connaître le futur. Et on sait que ça passe par le divin, au point que le mot divination veut dire connaissance du futur et veut dire Dieu, enfin, ce qui dépend de Dieu. Et en même temps, Dieu a voulu préserver une religion qui ne soit pas que dans la crainte et le respect et la crainte de son existence et de sa puissance, mais qui soit dans une relation de confiance, d'espérance et de charité et d'amour. Donc, vous avez dans les religions ces deux éléments. Et il n'y a qu'une seule religion qui l'accomplit de manière parfaite, c'est celle que Dieu a fondée, que Dieu a voulu, la vraie religion. Toutes les autres religions peuvent avoir des éléments, mais sont incomplètes parce que inventées par les hommes et bricolées par les hommes, avec plus ou moins d'ingéniosité, avec des noms complexes, parfois eux-mêmes ou parfois aidés par des esprits, par des démons. Vous voyez, par exemple, on vient de découvrir il n'y a pas longtemps un véritable trésor archéologique des Mayas. Alors ils sont tout contents, ils descendent dedans, tout ça, il y a des pièces extraordinaires. Sauf que les Mayas, ils faisaient des sacrifices humains comme les Aztèques. Et dans une tombe d'un roi Maya il y a quelques années, ben, on a découvert 6 enfants qui devait, grandir près de lui. Ce n'étaient pas ses propres enfants, puisque lui avait une cinquantaine d'années. Six enfants qui avaient entre 1 et 5 ans, hein, qui ont été sacrifiés pour l'accompagner. Voilà. Donc c'est des sacrifices d'enfants. Les Mayas faisaient des sacrifices d'enfants, mais ça faisait des sacrifices d'adultes, et plus particulièrement, comme dans les civilisations précolombiennes, eh bien, des sacrifices de prisonniers, et plus particulièrement des chefs. Tandis que, bien sûr, les soldats étaient plutôt des esclaves. Donc tout cela, j'insiste beaucoup sur cette connaissance des religions païennes et des religions idolatriques, parce que, en effet, il y a des éléments de vérité, mais ces éléments de vérité sont au milieu de tant de faussetés que... Vous voyez, c'est... Voilà. Et c'est la même chose en soi maintenant pour la religion juive. La religion juive manque actuellement d'une relation beaucoup plus confiante et touchante avec Dieu, à cause de la loi mosaïque qui est très, très sévère, comme le dit saint Paul, et comme il en est imprégné lui-même, mais qui lui-même s'ouvre parce que il m'a aimé et il est mort pour moi. Voilà ce qui bouleverse le pharisien Paul. C'est « il m'a aimé et il est mort pour moi ». Et Dieu nous a aimés le premier, alors que nous n'étions pas aimables, alors que nous étions pécheurs. Alors la confession, c'est Jésus, c'est le Nouveau Testament qui l'invente en tant que sacrement, c'est-à-dire qu'en tant que rencontre rituelle avec un prêtre. Les êtres humains regrettent leurs péchés, dans le secret de leur conscience, dans un examen de conscience qui est naturelle chez nous. La conscience est un jugement de l'intelligence sur nos pensées, sur nos actes passés, présents et futurs. Et c'est naturel chez nous. Nous qualifions toujours nos actes entre vrai et faux, bon et mauvais. On ne peut pas s'en empêcher. Vous voyez? C'est naturel chez nous, c'est l'âme humaine, c'est l'esprit qui est comme ça. Les anges, qui sont de purs esprits, le font d'une manière extrêmement lumineuse et sans, comment dire, sans beaucoup d'expérience. Parce qu'ils ont de telles connaissances et ils ont un esprit tellement limpide qu'ils savent ce qui est vrai et faux, bon et mauvais, extrêmement vite. Tandis que l'être humain, lui, le fait par raisonnement, par jugement successif. Ce qu'on appelle en philosophie, la matière de la philosophie qui étudie le raisonnement, c'est la logique. Et c'est ce qu'on appelle les prémices. Socrate est un animal, or un chat est un animal, donc Socrate est un chat. Alors, donc c'est un mauvais raisonnement. Pourquoi? Mais parce que, ou alors, Socrate est un animal, les chats sont des animaux. Vous avez une proposition qu'on appelle la majeure, ensuite vous avez une proposition qu'on appelle la mineure. Et vous avez une troisième proposition qui est la conclusion des deux, de la comparaison des deux premiers jugements. A est B, or B est C, donc A est C. Vous voyez? Mais vous avez le particulier et le général. Donc quand vous mélangez le particulier et le général, vous aboutissez à ça, Socrate est un chat. Eh bien, nous ne pouvons pas nous empêcher de juger. Et c'est le jugement de constat. Vous avez le jugement de condamnation ou le jugement de constat définitif que le Christ nous demande de poser avec beaucoup de soin. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. C'est-à-dire, ne posez pas définitivement votre jugement d'une manière rigide et froide. Et moi, je ne vous jugerai pas de manière avec une justice stricte. Comme vous jugez les autres, vous serez jugé. Si vous ne pardonnez pas aux autres, mon Père ne vous pardonnera pas. Boum. Vous voyez, c'est. Et le pape François, là récemment, a un peu donné plus de consistance à ce qu'il dit habituellement. L'amour inconditionnel de Dieu, ben, si on ne pardonne pas, par exemple, Dieu pardonne pas. Donc, si, vous voyez, il y a une condition. Déjà, il y a un petit problème dans la formulation est un peu trop pastorale, on va dire, n'est-ce pas? Un peu trop générale. Et donc, vous avez il a dit, il ne faut pas abuser de Dieu, et à un moment donné, on passera à côté de sa miséricorde. J'ai plus les termes exacts. Alors même que il avait dit une phrase très très belle au début de son pontificat qui était Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Ça, c'est vrai. C'est très très vrai. Par contre, il y a des conditions quand même, que nous ne fassions pas obstacle à la grâce qui nous pousse à reconnaître nos torts. La difficulté chez nous, lorsqu'on reconnaît nos torts et qu'on commence à cesser de pécher, c'est que à cesser de pécher, c'est-à-dire à faire face à notre péché, c'est que lorsque on continue à pécher, par faiblesse, par habitude, eh bien on est triste, on est amer, parce qu'on voudrait, d'abord, on a une. Amour bien ordonné commence par soi-même, charité bien ordonnée commence par soi-même. On a raison d'être triste de pécher. Enfin, c'est pas non plus le drame des drames, hein. Le drame des drames, c'est la damnation. C'est je pêche et je m'en fous. Donc lorsqu'on est triste parce qu'on continue à pécher, c'est une part d'orgueil et de fierté mal placée. Qu'on est excessivement triste, la tristesse du mal qu'on fait inutile, c'est la contrition, ou au moins l'attrition, pour utiliser des termes techniques. La contrition, c'est un regret bien plus fort et plus net. Et là, le regret excessif, c'est le scrupule. Et le scrupule cache l'orgueil. On veut être parfait et on ne l'est pas. Et on est triste. Et on est là. On est fatigué de lutter contre nos péchés. Et Dieu nous dit, ne te fatigue pas, persévère. Oh oui, mais c'est quand même épuisant. Vous ne pouviez pas faire une nature un peu meilleure, où je ne pouvais pas être un ange, où on pêche ou on pêche pas, quoi. C'est quand les anges décident de pécher, ils pêchent pour toujours. Ils sont damnés. Et quand les anges décident du bien, ils sont heureux pour toujours. Mais oui, mais on ne peut pas se mettre à la place d'êtres qui, en un instant, décident de toute leur vie. Parce qu'ils ont les moyens de le faire. Ils sont de pures intelligences, ils sont de pure volonté. On peut vouloir avoir été un ange, mais on ne l'est pas. Et les âmes sont créées à chaque conception. Il n'y a pas un réservoir d'anges qui sont ah non je veux pas devenir un homme ah, paf dans un corps. Vous voyez, vous avez des hérésies qui consistent à dire ça. Surtout la gnose ou le manichéisme. Le dieu du mal, il crée la matière, il crée les animaux, il crée tout ce qui est caduques, les fleurs qui fanent, les animaux qui se bouffent les uns les autres, les éphémères qui sont mangés par les oiseaux, c'est horrible, tous ces pauvres papillons, toutes ces mouches, tout ça c'est horrible, c'est dégueulasse, voilà, et en plus, ils chopent au dieu des esprits, en dehors de la matière, les purs esprits, ils chopent des esprits pour les enfermer dans des corps, et ils sont comme ça, avec des pulsions animales, instinctives, horribles. Et donc les cathares qui étaient des manichéens, mais les manichéens, Saint Augustin était un manichéen. Hein. Donc les cathares, les parfaits, leur di disaient « Ah voilà, on a été enfermés par le dieu du mal, mais c'est pas vous, hein. C'est votre corps animal qui fait ça, hein. » Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, mais n'ayez surtout pas d'enfants, n'ayez surtout pas d'enfants et tout ça. Hein. Les cathares, les manichéens, pas d'enfants. Et on fait en sorte qu'on n'ait pas d'enfants aussi, hein, entre un homme et une femme, de mille manières. Hein. Et donc on est face à les cathares et les manichéens étaient donc dans une hypocrisie, en disant c'est pas moi, c'est ma main. Et quand il volait, ah ben c'est ce corps qui nous entraîne et tout ça. Donc il pouvait faire n'importe quoi. Et à la fin, ça se terminait en orgie. Hein. Le puritanisme termine toujours en orgie, en débauche. C'est automatique. Qui fait l'ange, fait la bête. Et c'est pour ça que la vraie religion est un équilibre, est une lutte, est un combat spirituel. Voilà. Alors, on n'est pas fier, on a fait ça, on a fait ci, oui, ben, c'est. Voilà, on mange trop vite, on mange goulûment parce qu'on aime le sucré, on aime ça, ou on boit trop de vin. Bon, ben, c'est. Comment dire il faut. Demain est un autre jour. Et ce demain est un autre jour, c'est l'examen de conscience quotidien. C'est la prière. Parce que. Nous sommes des êtres intelligents et volontaires. On a une âme spirituelle. Donc on peut, malgré notre corps animal, on a une vie au-dessus du corps. On se lave, on se coiffe, on s'habille, on se parfume, dans le sens qu'on se lave. C'est une odeur neutre, hein, le fait de se laver. Le corps animal, il sent. Vous voyez? Quand vous avez un SDF qui se lave pas souvent, ben c'est une odeur d'homme. Les animaux, ils savent que c'est une odeur d'homme. C'est pas une odeur d'animal, de chien, de chat, c'est une odeur d'homme. Oui. Et donc, mais nous, enfin, c'est parce qu'ils sont souffrants, ils sont en dépression, l'être humain n'aime pas son odeur parce qu'il sait qu'il est au-dessus de ça. Et je vous l'ai déjà dit aussi, l'être humain mange, apprête sa nourriture, l'animal n'apprête pas sa nourriture. Et même, on n'a pas, petit à petit, si vous voulez, l'être humain va essayer d'avoir des coutumes pour manger correctement. Oh oui, mais non, c'est la civilisation, c'est la culture, c'est pas naturel. Ben, si, vous allez au fin fond de l'Amazonie, vous verrez, ils ne mangent pas comme ça. C'est que dans les films. Tous les êtres humains savent faire les choses correctement. Jusqu'aux toilettes. Dans une tribu amazonienne, on ne met pas le trou au milieu du village. On le met dehors. C'est comme les scouts, vous voyez, à chaque fois qu'ils font un camp, il y a les toilettes, il faut mettre 100, ils mettent 100 mètres ou 200 mètres. Vous voyez? Ils font un trou, ils mettent deux branches, voilà, c'est très simple. Mais l'être humain n'aime pas intégralement son activité corporelle, parce qu'il sait qu'il est au-dessus. De la même manière, cependant, ce corps accompagnant une âme, c'est pas le corps d'un animal, donc il est honoré, il est lavé, il est coiffé, il est habillé, et il y a une sépulture. Tout cela pour vous faire comprendre que la conscience humaine est indestructible. Maintenant, ça ne suffit pas. C'est le lien avec Dieu, la prière, d'être en amitié avec Dieu. Comment être en amitié avec un autre être humain? Ben, vous le regardez, et vous avez l'œil et le miroir de l'âme. Si c'est pas un trop rigolo, ben, il peut être très gentil, mais avoir un visage un peu statique, ne pas sourire, ou peu sourire. Et ça, c'est les tempéraments. Mais la bonté d'une âme ne dépend pas de son sourire. Ben, si quelqu'un, non seulement vous sourit jamais, mais à chaque fois vous balance des piques, critiques et amères et tout, bon, là, c'est lié. Mais vous avez des gens qui sourient pas beaucoup et qui sont très bons. La relation avec l'autre, comme nous ne pouvons pas nous connaître, nous ne pouvons pas aller dans notre esprit, à l'esprit de l'autre. Vous voyez? C'est que dans les films, hein. Voilà, non. Transmission de pensée, macache. Vous voyez? Vous avez l'espion qui est là, pour pas attirer l'attention, il n'a pas de téléphone, de machin, de truc, rien. Il lit les documents. Et il y a quelqu'un qui est dehors et qui lit à travers ses yeux. Voilà. Vous savez que ça a été étudié, moi, je pense qu'il se lasse, hein. Transmission de pensée. Vous avez des sous-marins, vous avez des lieux différents, ils étaient dans des salles différentes, et ils essayaient de jouer aux échecs dans deux salles différentes. Ha, ha, ha. Alors comme vous avez une chance sur deux, enfin, c'est une question de probabilité. Et alors, quand vous avez des probabilités, en fait, par pur hasard, ça correspond, on dit, ah ben voilà, il s'est vraiment concentré, et voilà. Non. L'âme n'agit pas à l'extérieur du corps, sauf permission divine, où l'âme sort du corps. C'est ce qu'on appelle la bilocation. Pas rien. Mais vous pouvez pas agir sur de la matière. Pourquoi les esprits, eux, agissent sur la matière? Vous voyez, pendant que je vous parle, ça se tourne tout seul. Vous voyez? C'est impressionnant. Vous voyez tout ce qu'il faut faire pour l'ouvrir? Donc vous allez là, je vous parle, et tout d'un coup, vous avez le bouchon qui tourne tout seul, comme dans un film des poltergeists, ou des bouchons qui sortent comme ça. Pop. Et pim, et hop. Eh bien, quand vous avez des objets qui bougent tout seuls, ce sont des purs esprits qui saisissent la matière et la déplacent. Nous sommes des esprits unis à un corps. Quand on meurt, l'âme sort du corps et il y a une conjonction entre la polarisation électrique magnétique de notre corps et l'âme. Quand notre âme sort du corps, notre corps, le tout qu'est notre corps, se disloque et toutes les parties prennent leur indépendance et tout se décompose. Vous voyez? L'âme humaine saisit le corps et l'organise, le coordonne. Mais elle est dans le corps. L'âme humaine n'agit jamais hors du corps. C'est que dans les films, que dans les séries ou les émissions télé pourries. Le gars, il est là, il a une cuillère avec mémoire de forme, hein, parce que un métal mémoire de forme, pour tricher, sinon ça marche pas. Et donc il est là, et quand vous, comment dire, c'est organisé avec la chaîne télé, ou ils le font plus d'ailleurs, hein. Quand c'est trop chaud, vous voyez, c'est bien chaud, tout ça, on augmente la température, et là vous avez le truc qui se tord. Pendant ce temps-là, l'autre, il est là. Et là, oh, incroyable. Pourquoi? Parce que la matière ne bouge pas, sauf par interaction des atomes, magnétisme, la loi de la gravité. Hein. C'est impressionnant comment la masse de l'eau réagit à la masse de la Lune. Vous voyez, la Lune attire les atomes de l'océan par magnétisme. Hein. Par gravité. Et la Terre est tellement importante par rapport à la Lune que la Lune n'arrive pas à sortir. Elle est là. Oh, j'en ai marre de tourner autour de la Terre. Je voudrais. Ben non. Voilà. C'est quand vous avez une gravité pareille, la Lune, elle est coincée. Ou alors, elle a toujours été là, ou c'est un morceau de la Terre, ou une explosion. Bon, enfin, elle est là. Vous voyez? Quand vous avez un astéroïde ou une comète, eh bien, ses trajectoires sont influencées par toutes les planètes sur son. Et donc, quand en fait c'est bien clair, l'influence est toujours la même, eh bien, ça lui donne une rotation qui fait que bon, sa trajectoire est un peu déviée et à un moment donné, elle va s'écraser quelque part si elle tourne. Mais la matière est inerte. Elle est électrique, magnétique, mais là, c'est mécanique. Lorsque la matière bouge toute seule en elle-même, elle est vivante. Et je vous ai déjà expliqué qu'on appelle, de manière très générale en philosophie, l'âme des bactéries, l'âme des plantes, l'âme des animaux. Mais c'est un principe de mouvement immatériel qui est détruit, annihilé, lorsque l'animal ou le moustique où la bactérie se désorganise et meurt. Elle est réduite à la puissance de la matière. Mais on ne peut pas prouver que un principe de mouvement de matière qui en fait un être vivant disparaît. On ne peut pas le prouver. On le constate. Mais on ne le prouve pas. Parce que ça voudrait dire que il y a plein d'âmes de moustiques et de bactéries partout en ce moment. Enfin, elles sont immatérielles. Donc, imaginez le nombre de milliards d'âmes de bactéries qui seraient là. Enfin, c'est immatériel, donc ça gêne pas. Mais voyez-vous, c'est pas logique. L'être humain, lui, par ses actes abstraits, on sait que son âme est immortelle. Elle persiste à la désorganisation du corps. Et donc, nous-mêmes, on ne peut pas connaître les pensées de l'autre. On ne peut pas, notre esprit ne peut pas aller dans un autre esprit. Même un ange, même un démon, ne peut pas savoir ce qu'il y a dans notre esprit. Même lorsque vous êtes possédé par un démon, il entre dans votre corps, Il cohabite avec votre âme, mais il ne sait pas ce que vous pensez. Donc les films qui montrent, qui donnent aux démons ce pouvoir de connaître les pensées sont faux. Oui.
Mais vous dites que les anges, finalement les démons,
oui,
ils ont une intelligence très subtile. Je veux dire, en fait, quand on est un peu intelligent observateur,
on peut deviner. Surtout quand vous...
Des fois, c'est limite.
Oui.
Précisément. Alors, si le démon ou l'ange, lui, il a une intelligence encore supérieure.
Oui.
Voir.
Mais bien sûr, d'autant plus quand on parle.
Oui.
Vous avez quelqu'un qui parle à son médecin, qui dit voilà, machin, ou qui parle à un prêtre, ou qui se confesse, justement. Ben, le démon, il est là. Il connaît la personne. Hein. Enfin, il l'avait déjà vu agir. Hein. J'ai envie de voler. Vous regardez un objet comme ça, et les anges qui vous voient, regardez à gauche, à droite... fixer l'objet, dit, ben, il a envie de le voler. Ils sont pas cons. Hein, voilà. Mais le gardien du supermarché aussi, hein, il vous voit tourner. Voilà. Mais il y a des choses beaucoup plus fines. De haine, de querelle familiale. Hein, de réaction, de ce qu'on dit. Et donc là, les démons, ils ramassent tout. C'est pour ça que je vous avais dit aussi, quand on fait du spiritisme, ou ce sont de purs escrocs, très psychologues, parfois pour certains. Ils vous voient arriver, ils vous demandent 100 euros. Bon, voilà. Donc vous avez envie que un retour sur investissement. Hein, donc ils vous posent des questions, tout ça, machin. Et puis ils voient comment vous êtes, si vous transpirez, si vous ne transpirez pas, si vous êtes gros, maigre, anorexique, machin. Et puis à la fin, ils vous disent oui, mais vous, il y aura ça dans votre vie et tout ça. Mais c'est... C'est de la pure escroquerie ou de la pure psychologie. Mais un vrai spirit, là, ça rigole pas du tout. Parce que justement, là, il va se concentrer. C'est pas qu'il va essayer d'entrer dans votre âme, il peut pas. Mais il va consulter les démons. Et certains, au nom de Dieu, il dit, je consulte les anges. Jamais, Dieu vous interdit d'aller voir des gens... des rebouteux qui vous prédisent l'avenir. Il vous l'interdit. Hein. Mais il y a la Vierge Marie dans son bureau et tout ça. Dès qu'un rebouteux fait des prières bizarres et tout ça, faites attention. C'est peut-être pas des anges, c'est peut-être des démons. Normalement, le pur magnétisme, la personne n'a rien à dire. Si sa main est très polarisée et très concentrée en magnétisme, et que sur une brûlure... Ils mettent la main et que ça active dans vos cellules de peau une meilleure guérison par rapport au feu, par rapport à la brûlure. Il y a des gens qui vous guérissent les zonas en mettant les mains, mais il faut qu'il y ait un contact physique. L'Église vous dit c'est pur, tout ce qui est sans contact physique est démoniaque. Photos, cartes, ça. Les anges n'ont pas la permission de vous révéler des choses à distance, donc c'est des démons. Vous voyez ? On vous met la photo d'une personne disparue, il met les mains dessus, ou alors la maman arrive avec la photo de son enfant et dit il est malade, ou pour réussir son bac, alors il met les mains sur la photo, et hop, ting, 500 euros. Il va réussir son bac, bah oui, bah parce qu'il va travailler, hein, mais c'est pas parce qu'il a mis l'autre a mis les mains sur la photo. Hein. Vous voyez ? Tout ça, c'est du spiritisme, hein, et il faut faire très attention. Par contre, le magnétisme, là où il faut faire très attention aussi, parce que le magnétisme n'est toléré que s'il n'y a pas de parole. C'est purement mécanique. Quand vous avez une mère d'un Carmel, la mère supérieure d'un Carmel qui détecte les sources, ou une carmélite, hein, une religieuse, on le permet. Elles sont là, elles ont acheté le Carmel, tout ça, elles veulent un puits. Parmi les sœurs, il y en a une qui trouve des sources. Alors, c'est pas une sorcière, c'est une sourcière. Et donc, elle a un bâton, le bâton de coudrier. Et qu'est-ce que c'est que ce bâton ? Il amplifie les tremblements. Et donc, lorsqu'elle est là, elle tient le bâton de manière très très fine. Et quand vous avez la masse d'eau magnétique, les mains tremblent ou réagissent et le bâton monte ou descend. Et creusez là et on trouve de l'eau. Mais ça, c'est mécanique. C'est pas l'âme, n'est-ce pas? Faut faire attention à ça. Hein. Enfin, tout ça pour vous dire que l'amour est difficile, puisqu'on ne peut pas savoir ce que pense l'autre. On ne peut pas savoir s'il vous aime, on ne peut pas savoir s'il vous ment, on ne peut pas savoir s'il est jaloux, on ne peut pas savoir s'il est heureux, malheureux, fondamentalement, sauf s'il vous le dit, sauf si vous avez des preuves extérieures. Donc avec Dieu, hein, vous regardez Jésus, vous dites tiens, comment il est aujourd'hui, est-ce qu'il a bien dormi? Vous voyez, vous regardez son visage, s'il a les yeux clairs, il est bien coiffé aujourd'hui? Ben non, vous n'avez vraiment pas l'occasion de connaître Dieu facilement. Hein. Dieu a un pur esprit qu'il n'est pas du tout évident de connaître et d'aimer. On le fait par l'intermédiaire des fleurs, des paysages, des beautés, des œuvres d'intelligence. Moi, je suis un pur citadin. Je suis né à Paris, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 23 ans à Paris, même si on allait à la maison de Normandie, qu'on avait fini par acheter à force de mettre des sous de côté, tout ça, parce que mes parents sont d'une petite et moyenne bourgeoisie. On avait notre maison de campagne à un moment donné, donc voilà. Une maison Bouygues dans un village de Normandie, mais c'est pour des Parisiens, c'est le paradis, quoi. Enfin, voilà. Et donc, mais on était dans la campagne, on voyait la forêt, on voyait tout ça. Et bien, moi, j'aime beaucoup les œuvres humaines. J'aime beaucoup le reflet de l'intelligence et de la fantaisie divine qu'il y a dans les œuvres d'art. Dans les beaux immeubles, dans les belles réalisations. Hein? J'ai un ami, quand on marche dans les rues de Paris, je lui dis, ah, ça c'est du 19e siècle, ça c'est du 16e siècle et tout ça. Il y a tel. Il dit, mais vous auriez dû faire architecte. Mais... Non, non, c'est parce que tout ce que j'observe, je remonte à la cause de la. Vous voyez? Et donc, on connaît Dieu par son manteau. Qu'est la nature, qu'est la création, qu'est les créatures. Comment on sait ce que c'est que la justice, la colère ou autre? Eh bien, par des gens qui sont justes, qui sont colériques, qui sont miséricordieux. Comme ça.